Voilà, bonjour frères et sœurs. Voilà, nous remercions notre Seigneur pour ce premier temps de louange et d'adoration. Et le thème aussi qui a été choisi sur cette merveilleuse espérance que nous avons en notre Seigneur Jésus. Et je dirais que la prédication sera dans la continuité de ce qui a été dit. Puisque le thème, comme vous le voyez, c'est accomplir nos bonnes résolutions. Effectivement, nous avons cette espérance dans le Seigneur, qu'un jour nous serons avec lui. Mais en attendant, nous sommes sur le chemin qu'il a tracé pour nous, en direction de cette espérance. Et la question pour nous, c'est comment cheminons-nous pour arriver et participer à ce moment de glorification qui est à venir. Et le Seigneur Jésus nous donne cet exemple par sa vie, puisque lui aussi, il vivait dans cette espérance du retour vers son Père. Et pour atteindre et pour aller jusque-là, il savait qu'il devait passer par la croix. Et le texte que nous allons voir ce matin nous montre que c'était ça sa priorité, de rien laisser l'empêcher d'aller et d'atteindre son but pour retrouver son Père qui était là, son espérance aussi. Et donc ce texte, nous allons lire dans Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Nous avons vu avant, dans les versets qui précèdent, que le Seigneur Jésus-Christ a encouragé ses disciples à manifester leur foi en lui pour avoir la capacité de délivrer une personne possédée par des esprits impurs, dans les versets 37 et jusqu'à 43. Encourager les. Et donc, il leur a reproché leur manque de foi. Il les a encouragés à faire preuve d'humilité entre eux et pas chercher à être le plus grand, mais aussi à faire preuve de tolérance vis-à-vis de ceux qui, même s'ils ne sont pas dans leur groupe, mais qui ont mis leur foi en Jésus puisqu'ils pouvaient faire des choses en son nom. Et donc, quelques temps après, le Seigneur Jésus, alors qu'il est en Galilée, au nord, donc il décide de descendre vers Jérusalem. Donc on est dans la troisième année de son ministère. Et le texte que nous lisons dit au verset 51, Luc chapitre 9, verset 51, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Alors jusque-là, pour la lecture de ce matin, c'est ce texte qui va nous accompagner pendant ce temps de réflexion et de méditation. La première chose que je vais souligner, c'est donc la souveraineté de Dieu sur le déroulement des événements concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'auteur Luc souligne que le Seigneur Jésus était maître des circonstances. Il maîtrisait son calendrier, Il savait pourquoi il était là et pendant combien de temps il devait rester sur la terre. Et quand il allait retourner vers le Père pour retrouver la gloire qu'il avait auprès de lui. Et donc, c'est dans cette connaissance-là qu'il agissait. Et lorsque le temps était arrivé, il fallait qu'il aille à Jérusalem. Donc là, on voit que le Seigneur n'est pas pris au dépourvu. Il est au contrôle de tout. Et c'est lui qui prend la résolution de se rendre à Jérusalem pour offrir sa vie en rançon pour beaucoup. Et Luc nous dit que lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, il aurait pu dire lorsque le temps où il devait être mis à mort approcha. Puisque la mise à mort n'était pas la fin. Il y avait quelque chose après. Et preuve en est, frères et sœurs, que les événements de la vie de Jésus se font au moment voulu par Dieu. On le voit quand on voit un peu son parcours, qu'au moment de sa venue, ça ne s'est pas fait un moment voilà, comme ça. Tout était préparé. Et l'apôtre Paul, il dit dans Galates, chapitre 4, que c'est lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. C'est lorsque les temps ont été accomplis. Et en lisant les premiers chapitres de l'évangile de Luc, on voit que ce paramètre temps est toujours là. C'est au temps du temps d'Hérode, roi de Judée. C'est lorsque Élisabeth et son mari ont eu, après cet enfant, Jean-Baptiste, qui allait être celui qui allait précéder le Seigneur pour préparer la voie du Seigneur. Marie qui tombe enceinte et puis qui sont avec Joseph, ils sont obligés d'aller à Bethléem pour le recensement que l'empereur César Auguste avait ordonné. Et donc tout cela, c'est dans un timing, les choses se font, il fallait qu'il naisse à Bethléem et pas à Nazareth. Chaque chose se fait en son temps. Et pour son ministère, le Seigneur Jésus, je dirais que même tout petit, quand il avait 12 ans, il disait à ses parents, alors que les parents le cherchaient, il était dans le temple en train de parler des choses de Dieu avec les responsables religieux. Il leur dit, mais ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? C'était là son désir, s'occuper des affaires de son père. Mais là, le temps n'était pas encore venu pour qu'il commence ce ministère public. Donc il a fallu qu'il fasse preuve aussi de patience. Et puis c'est à 30 ans que... il va commencer ce ministère public avec son baptême pour valider le baptême de Jean. Et donc, il fallait que le Seigneur attende aussi le temps de Dieu pour, alors que même à 12 ans, il pouvait déjà parler avec les plus grands. Mais parce que les hommes, ils croissaient devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et un enfant de 12 ans parler, on ne l'écoute pas. Mais c'est à 30 ans. Voilà, il était prêt pour cela. Et pendant les 3 ans de ministère, à plusieurs reprises, l'apôtre Jean a montré que les événements de la vie de Jésus étaient sous le contrôle souverain de Dieu. En Jean chapitre 7, verset 30, il parle des habitants de Jérusalem qui étaient dans le temple et qui cherchaient donc à se saisir de lui. Et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Au chapitre 8, verset 20, Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas venue. À chaque fois, Jean il répète cela, que la mort de Jésus, c'était pour un temps donné, et parce que son heure n'était pas venue, on ne pouvait pas l'arrêter. Rien ne se fait, frères et sœurs, si ce n'est la volonté de Dieu. Et chaque chose se fait dans le temps de Dieu. Et à la fin de son ministère, lorsque le moment est arrivé, c'est lui qui dit, eh bien, l'heure est venue. Dans chapitre 12 de l'évangile de Jean, il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Dans notre passage de donc, Luc 9, versets 51 à 56, là nous sommes au milieu un peu, voilà, à quelques mois de, dans les derniers mois de son ministère. Et donc le Seigneur, il sait que ce sera bientôt la fin. Donc le texte nous dit qu'il a pris la résolution de se rendre à Jérusalem pour accomplir l'œuvre pour laquelle il était venu sur terre. Donc il avait déjà à plusieurs reprises dit aux disciples quelle était cette œuvre lorsqu'il leur disait qu'il devait être livré entre les mains des hommes qui souffrent beaucoup, qui soient rejetés par les anciens. Par exemple, dans les versets 40, 44 et 45 là, du chapitre 9. Mais à chaque fois, il est souligné que les disciples ne comprenaient pas ce qu'il disait. Et même lorsqu'ils ont appris que Jésus, après sa résurrection, était ressuscité, ils eurent du mal à comprendre et à accepter cette réalité. Et donc, là, il y avait cette incompréhension des disciples par rapport à cela. Et le Seigneur Jésus, même si les disciples ne comprenaient pas, ça ne l'a pas empêché d'accomplir la volonté de son Père. Et puisqu'il voulait l'accomplir pleinement, c'est lui qui décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem d'après la version Semeur. C'est sa décision d'aller et de se rendre à Jérusalem, et il sait vraiment pourquoi. Pour être enlevé du monde et pour retrouver son Père. Et donc c'était ça la finalité. Pour pouvoir être enlevé et retourner auprès du Père. Mais avant cela, il savait qu'il fallait qu'il passe par la croix. Et c'est là, je crois, l'enseignement pour nous. Nous avons parlé de glorification. Et parfois, dans les événements de notre vie, c'est pareil. Comprendre que pour arriver à ce moment de glorification, il y a un chemin, un tracé, et il faut accepter de passer par ce chemin. Et ce chemin peut être difficile et rocailleux. Et il faut accepter de passer par la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. On veut la glorification, mais malheureusement, on ne veut pas passer par la croix. Mais ce n'est pas possible. Et le Seigneur Jésus va mettre en œuvre sa résolution, puisque ce qu'il veut, c'est se rendre à Jérusalem, parce que la finalité, il veut retrouver son Père. Mais il sait qu'il faut qu'il donne sa vie avant. Et donc, dans ce texte, j'aimerais souligner trois choses. C'est que il va mettre en œuvre cette résolution d'aller à Jérusalem en s'occupant des choses utiles pour la réussite de son voyage, en refusant de faire ce qui est mal, mais aussi en se rappelant le but de sa mission, pourquoi il veut le faire. Et je pense que dans la vie de tous les jours, on est confronté à des choses comme ça, où on veut arriver ou faire quelque chose, arriver à un but, alors il faut se donner les moyens pour pouvoir y arriver. Et donc il faut prendre la résolution de. Et alors, il y a plusieurs manières de faire, mais est-ce qu'on fait la bonne, est-ce qu'on utilise la bonne méthode? Est-ce qu'on fait comme il faut le faire? Et puis, toujours garder en tête l'objectif qu'on a. Par exemple, un jeune qui veut passer son bac, voilà, c'est avoir son bac après pour aller à l'université. Donc, il faut qu'il se donne les moyens. Il faut, voilà, il y a les études, etc., etc. Donc, faire les nécessaires. S'il y a des démarches administratives, comme les jeunes là pour Parcoursup, il faut faire les démarches. Si tu ne le fais pas, eh ben, alors tu peux avoir ton bac, mais tu ne pourras pas faire la suite. Donc, il y a des choses à faire, des choses pratiques à faire. S'assurer de faire les choses dans les règles. Ne pas tricher. Et puis, toujours avoir cet objectif. Par exemple, si c'est un métier ou quelque chose qu'on a à cœur, et qu'on sait que oui, voilà, Dieu va nous aider et qu'on veut aller là, ben, on garde cet objectif-là et puis on y va. Et le Seigneur Jésus, c'est ça. Son objectif, c'est de retrouver son Père. Alors, il fait le nécessaire pour pouvoir arriver jusqu'à Jérusalem. Jacques et Jean lui demandent de faire quelque chose, mais ce n'est pas la bonne manière. Alors qu'il le refuse. Et puis, il garde en tête sa mission. S'occuper des choses utiles pour la réussite de son voyage. Donc, c'est pour ça que le Seigneur Jésus décide d'envoyer devant lui des messagers pour lui préparer les dignes logements. Le Seigneur Jésus ne voyageait pas seul. Il avait avec lui non seulement ses apôtres, mais d'autres disciples aussi qui le suivaient. Donc c'était un long voyage qui allait se faire en plusieurs étapes. Et donc il fallait trouver un lieu pour permettre à tout ce monde de se reposer, de se restaurer. Et ces choses, je dirais purement matérielles, ne sont pas sans importance. Et le Seigneur pense même à ces choses purement matérielles. Le chemin le plus direct, c'est de la Galilée pour aller en Judée, il fallait traverser la Samarie. Et donc le Seigneur les envoie dans un bourg des Samaritains en espérant que ses habitants allaient l'accueillir. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas, comme nous le voyons dans le texte, puisque lorsqu'ils vont apprendre que Jésus allait à Jérusalem, ces Samaritains n'ont pas voulu le recevoir dans leur village. Alors les raisons de ce refus sont liés à l'histoire de ces deux communautés, les Israélites et les Samaritains. Les Samaritains, vous savez, ce sont les descendants des Israélites du royaume du Nord qui avaient été emmenés en exil par les Assyriens en l'an 722-721 avant Jésus-Christ. Et donc, certains ont été emmenés en exil et puis les Assyriens ont fait venir des étrangers pour remplacer ceux qui avaient été enlevés. Et donc, il y avait ce mélange, là, parmi les Samaritains, un mélange d'Israélites qui se sont mariés avec des étrangers qui étaient là. Et donc, ceux du royaume du Sud, qui étaient quelque temps après partis en exil, par les Babyloniens et qui sont revenus, mais eux, ils ont toujours refusé de se mélanger. Et donc finalement, il y avait cette cohabitation entre les Samaritains et puis et les autres Juifs qui étaient là. Et même dans le livre d'Esdras et dans Néhémie, on voit vraiment que les Juifs revenus de l'exil de Babylone voyaient comme des ennemis les Samaritains. Même les Samaritains ont tout fait pour les empêcher de reconstruire le temple, reconstruire les murailles de Jérusalem. Alors ça, vous pouvez le lire dans 2 Rois chapitre 17 qui parle de l'origine des Samaritains, dans Esdras 4, Néhémie 4. Et puis Dans l'évangile de Jean, chapitre 4 aussi, où la femme samaritaine était même surprise que Jésus, un juif, lui demande à boire. Voilà, il dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire. Donc finalement, il y avait une haine entre ces deux peuples, entre les Samaritains, même s'il y avait un lien entre eux, mais ils ne se supportaient pas, au point même que les Samaritains ont construit leur temple sur le mont Garizim, et puis il y avait les Juifs qui avaient leur temple à Jérusalem. Et donc, lorsque eux, ils ont appris que Jésus allait à Jérusalem, donc il dit, voilà, ça ne pouvait pas aller. La deuxième chose, c'est que donc le Seigneur Jésus, voyant que les Samaritains ne voulaient pas, ben, qu'est-ce qu'il a fait? À la fin du texte, il dit, et ils allèrent dans un autre bourg. Donc le Seigneur Jésus n'a pas insisté, je vais revenir dessus, et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est allé ailleurs, tout simplement, parce qu'on ne voulait pas de lui. La deuxième chose, c'est que il a accompli ce qu'il avait résolu de faire, donc se rendre à Jérusalem, en refusant de faire ce qui est mal. Dans les versets 54 à 55, et donc, je disais qu'il n'y avait pas, pour les Juifs, il n'y avait rien de pire qu'un Samaritain. Pour eux, c'était des gens impurs, des gens de sang mêlé, de mélangés, qui ne respectaient pas la loi. Et donc, là, il y avait une haine aussi des responsables des Juifs, pharisiens et autres religieux. Et pour exprimer cette haine, par exemple, envers Jésus-Christ, il traitait Jésus de Samaritain. Dans Jean chapitre 8, verset 48, les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon ?» Voilà, c'était la pire injure qu'on pouvait faire à une personne pour les Juifs. Donc c'était aussi cette haine, je pense, qui animait les disciples, Jacques et Jean, envers ces Samaritains, qui ont refusé de pratiquer l'hospitalité envers le Seigneur. Peut-être qu'ils étaient influencés par tout ça, et en tant que juifs, il y avait cet arrière-plan là, et vous voyez ce qu'il propose au Seigneur Jésus, hein, de commander le ciel, que le feu descende et les consume, terminé. Voilà. Ça montre quel était leur état d'esprit. Et pour Jésus, agir ainsi, c'était mal faire. Parce que le texte nous dit qu'il les réprimanda, ou il les reprit sévèrement, en leur disant qu'ils ne savaient pas de quel esprit ils étaient animés. Et dans la version Sommeur, il est dit, « Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. » Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Et dans la Bible à noter, il est dit que les paroles qu'il prononce peuvent se traduire avec toutes nos versions françaises, il dit « Vous ignorez quel mauvais esprit vous inspire une telle pensée, une telle question. » Et là, le Seigneur souligne ce point que parfois nous disons des choses, mais nous ne faisons pas attention, c'est quel esprit qui nous anime. Est-ce que ce que nous disons, c'est conduit par l'Esprit de Dieu ou conduit par un autre esprit? Et le Seigneur Jésus, là, il les a repris sévèrement, les disciples, qui peut-être aussi par amour pour Jésus voulaient défendre le Seigneur Jésus. Ils voulaient punir ces Samaritains et qui voulaient refuser de les accueillir. Mais ils ne se laissaient pas guider par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Mais ils se laissaient peut-être guider par la haine qu'ils avaient de ces Samaritains. L'esprit qui les animait à cet instant ne venait pas de Dieu, mais du malin. Et ça, je pense qu'il faut le comprendre. Quelque temps auparavant, le Seigneur Jésus avait aussi réprimandé Pierre de la même manière. Lorsqu'il disait que voilà, il fallait que le Fils de l'homme meure, etc. Et Pierre, dans Matthieu 16, 23, ou dans Marc 8, 33, alors Pierre lui dit, non, non, ça ne va pas t'arriver. Le Seigneur se retourne et regarde Pierre. Il dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il le dit ça à Pierre. C'est ce qu'il dit aussi à Jacques et à Jean. Donc, ces personnes se laissent conduire, influencer par le diable, disent des choses pour soi-disant vouloir protéger Jésus, mais ils n'accomplissaient pas la volonté de Dieu. Et si Jésus les écoutait, il ferait le mal, parce qu'il ne ferait pas la volonté de Dieu. Et donc le Seigneur Jésus a refusé de le faire, de faire ce qui était mal, en répondant donc favorablement aux disciples qui voulaient détruire cette bourgade, parce qu'ils ne savaient que cette pensée n'était pas la pensée de Dieu. Ils voyaient donc à travers eux son ennemi, le diable, qui voulait le pousser à faire ce qui était mal pour pouvoir l'accuser. Mais parce que le Seigneur Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu, il a su discerner l'esprit du mal et il a dit non au diable. Et frères et sœurs, je peux vous dire que lorsque nous devons prendre des décisions, des résolutions, lorsque nous allons parler aux gens, il faut qu'on fasse attention. Que de savoir est-ce que c'est vraiment, je suis conduit par l'Esprit de Dieu lorsque je vais dire ou lorsque je vais parler. Et parfois on pense bien faire, mais ce n'est pas la direction que Dieu veut. La troisième chose, c'est que le Seigneur Jésus, pour accomplir ce qu'il avait résolu de faire, il s'est donc rappelé quel était le but de sa mission. Il le dit au verset 56. « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Voilà. Donc, il n'est pas venu pour détruire les Samaritains, il est venu pour les sauver. Et là, on voit tout l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour les hommes, que l'amour était sa source de motivation aussi pour se rendre à Jérusalem. Et donc, détruire cette bourgade allait à l'encontre de son amour pour ses habitants. Et donc, tout en connaissant la haine réciproque qu'il y avait entre ces deux peuples, mais lui ne se laissait pas conduire par cette pensée. Le Seigneur a montré qu'il aimait tous les hommes, qu'ils soient juifs ou samaritains. Et c'est pour cela aussi qu'il n'a pas hésité au tout début de son ministère, lorsqu'il était en Judée, il voulait monter en Galilée, il a traversé la Samarie, et c'est là qu'il a fait cette rencontre avec cette femme samaritaine dans l'évangile de Jean chapitre 4, et on peut lire quelques versets de cela. Évangile de Jean chapitre 4. Le texte nous dit que Jésus était fatigué, donc il s'est assis près d'un puits. Et il y a cette femme qui est venue. Alors on va pas tout lire. Il va avoir cette discussion avec cette femme qui attendait aussi le Messie, hein, les Samaritains. Et cette femme va dire, après la discussion avec Jésus, alors je vous invite à lire le chapitre à la maison, mais je vais juste lire les versets déjà 29, dans les versets 29 à 30. Elle va, après la discussion avec Jésus, elle va aller retourner dans son village et elle va dire, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Et après, au verset 39 à 42, Il dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Amen. Vous voyez ? Donc tout ça nous fait penser que ce n'était pas peut-être dans le même village que Jésus repassait 2 ans après. Puisqu'il y avait déjà une partie des Samaritains, en tout cas dans le village de cette femme, qui avait reçu Jésus. Pendant 2 jours, il est resté avec eux. Et puis, voilà, tout s'est bien passé. C'était peut-être pas au même endroit. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que malheureusement, dans notre passage, là, ces Samaritains qui ont refusé de recevoir Jésus, en refusant de le recevoir, ils se sont privés de la grâce de Dieu. Ils se sont privés de la possibilité d'entendre la bonne nouvelle, comme l'ont fait leurs compatriotes. Et donc, ils ne pourront pas dire, comme leurs compatriotes, « Nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Puisqu'ils ont refusé de l'accueillir, ils ne pourront pas le dire ça. Peut-être après, dans le ministère des apôtres, dans les actes des apôtres, ils vont aller en Samarie. C'est là où on voit tout le changement et ces personnes vont peut-être entendre l'évangile, la bonne nouvelle et ils vont se dire, ah ouais, mais c'est la personne qu'on avait rejetée. Mais en tout cas, à ce moment-là, eh bien, ils se sont privés de la grâce de Dieu. Puisque la grâce de Dieu ne s'impose pas par la force. La grâce de Dieu doit être acceptée librement, comme un don de Dieu. Et le Seigneur, puisqu'ils ont refusé la grâce de Dieu, le Seigneur n'a pas insisté. Il a décidé de partir et d'aller dans un autre bourg. La question c'est, est-ce que vous allez recevoir la grâce de Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir la grâce de Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir Jésus, à l'accueillir dans votre cœur? Ou est-ce que vous voulez faire comme ces Samaritains? Non, non, je n'ai pas besoin de toi. Je ne veux pas te recevoir. Va ailleurs. Combien de fois, frères et sœurs, les gens entendent ou ils voient et ils refusent d'accepter. Dieu ne va pas vous forcer. Mais est-ce que vous êtes prêts à faire comme cette femme samaritaine, à accepter d'entendre ce que Jésus-Christ dit à travers sa parole et dire oui, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit oui, ça c'est péché. Ma vie, c'est péché, mais je le confesse. Et je le reçois dans mon cœur. Et c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a transformé. Et il va le faire. Et malheureusement, beaucoup ressemblent à ces Samaritains. Il y a ceux qui sont prêts à accepter et il y a ceux qui refusent d'accepter. Et c'est comme ça la vie. Le Seigneur Jésus, frères et sœurs, a pris donc la ferme résolution de se rendre à Jérusalem, car c'était par ce chemin qu'il devait passer, pour pouvoir ensuite être enlevé du monde pour retrouver son Père. Il savait que sur cette route, il serait confronté à la souffrance, à la mort, à la croix. Il savait que là, il serait cet agneau qui s'offre en sacrifice pour le salut du monde entier. Donc, telle était sa mission pour sauver les hommes de la perdition éternelle. Mais il avait aussi cette confiance en son Père que celui-ci n'allait pas l'abandonner dans le séjour des morts, comme les apôtres l'ont souligné, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Et David l'avait déjà dit dans le psaume 16, si je ne me trompe pas. Et l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, dans leur prédication, vont souligner ces aspects-là. Donc le Seigneur Jésus avait cette assurance que son Père le ressusciterait des morts et le glorifierait. C'est ce qu'on lisait tout à l'heure dans Thessaloniciens aussi 4, que pour nous, chrétiens, eh bien, ça sera la même chose. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte à avoir les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et il dit, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et donc l'auteur dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Avoir les regards sur Jésus, c'est ne pas oublier cette réalité. Il y a une gloire à venir, mais comme Jésus, il y a un chemin de souffrance aussi qu'il faut être prêt à traverser. L'apôtre Paul aussi dit concernant le Seigneur Jésus dans Philippiens 2, 8 à 11, qui s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Mais il a été glorifié. Le prophète Ésaïe avait annoncé sa glorification après sa souffrance, lorsqu'il dit à Ésaïe 53, verset 12, « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Je lui donnerai sa part avec les grands, mais c'est parce que... » Frères et sœurs, la résolution qu'a prise notre Seigneur Jésus d'aller à Jérusalem était fondée sur la fidélité de son Père, qu'il savait être tout puissant pour le délivrer de la mort. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, le Père de gloire a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, dans Éphésiens chapitre 1, verset 20. Donc, il a pris cette résolution parce qu'il savait que son Père était tout puissant pour le ressusciter. Et donc, c'était une bonne résolution. Cette résolution était une donc, bonne résolution aussi, car elle était nécessaire pour le salut des hommes et pour la gloire de Dieu. Cette résolution de se rendre à Jérusalem était bonne aussi parce qu'elle était conduite par le Saint-Esprit dont il était rempli. Jésus était rempli du Saint-Esprit et il a pris des décisions selon la volonté de son Père. Quelle est, frères et sœurs, votre résolution ce matin? Qu'est-ce dans votre pensée vous anime et dit, tiens, j'aimerais faire ça, je devrais faire ça? Se poser la question, c'est est-ce une bonne résolution? Parce que ça peut être une mauvaise résolution. Parfois, on veut faire des choses, on s'engage, on est prêt, on va faire ça, mais se poser la question, c'est est-ce une bonne résolution? S'interroger par rapport à cela, quelle est cette pensée, quel est ce désir qui anime mon cœur, quelle résolution je veux prendre pour permettre aussi à cette pensée, à ce désir de devenir une réalité. Et ça, c'est tous les jours de la vie, on doit prendre des décisions et on doit faire des choix. Et pour réaliser les choses, voilà, Il faut se poser la question, mais est-ce une bonne résolution? Si, en prenant cette décision, est-ce que c'est la bonne chose que je dois faire? Maintenant, si je suis convaincu que c'est la bonne chose, mais qu'est-ce que je fais pour réaliser cela? Et frères et sœurs, pour que la résolution soit bonne, il faut qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu. Volonté qui est révélée dans sa parole, ou révélée par son Esprit Saint qui est en nous, si, et qui est en vous, si vous êtes en Christ, et si vous vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on a vu concernant le Seigneur Jésus. Et on peut lire ce passage d'Éphésiens chapitre 5. Parce que parfois, les gens, ils prennent des résolutions et puis parfois, ils voient très bien que ce n'est pas selon la parole, mais on y va quand même. Ou bien, ils prennent des résolutions, mais sans consulter la parole. Éphésiens chapitre 5, verset 15, il dit « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc il faut examiner son cœur pour savoir si le but qu'on s'est fixé, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et si c'est la volonté de Dieu, on est convaincu que c'est la volonté, nous basant sur la parole et puis sur tous les éléments que Dieu peut donner pour donner vraiment cette conviction, alors on y va. Et on va faire en sorte que les choses se fassent, parce qu'on sait que c'est la volonté de Dieu. Et j'aimerais nous encourager à cela, à accomplir nos bonnes résolutions, en faisant donc le nécessaire pour permettre l'accomplissement de celle-ci, en se laissant nous conduire et animer par l'Esprit de Dieu pour faire ce qui est juste et bien pour la gloire de Dieu. Donc s'interroger, voilà, c'est quel esprit qui m'anime, qu'est-ce qui me motive dans cela? Et puis garder en tête le but que l'on s'est fixé, l'objectif qu'on veut atteindre selon la volonté de Dieu. Alors j'avais prévu de voir avec vous l'exemple de l'apôtre Paul, je vais faire vite. Alors il y a deux exemples. Un moment il voulait aller à Jérusalem, mais dans tout son parcours, son troisième voyage, à chaque fois, les gens lui disent « Non, 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 n'y va pas. » Et donc, dans Acte 20, je vais lire quand même ces passages parce que je dois les faire. Dans Acte 20, versets 22 à 24, donc il rencontre les responsables de l'église d'Éphèse. Il dit « Maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Vous voyez, il a pris la résolution d'aller à Jérusalem. Puisque malgré le fait que le Saint-Esprit lui dit qu'il y aura des tribulations, mais il savait qu'il fallait qu'il y aille convaincu par Dieu, donc il n'a pas laissé que les tribulations l'empêchent d'accomplir les choses, même si le Saint-Esprit l'avait averti. Après, on va lui dire à la suite, au chapitre 21, on va lui dire « Non, non, n'y va pas !» Bon, alors Agabus va dire « Celui à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens, verset 11. Et quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Alors ils répondirent, mais que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et comme ils ne se laissaient pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Alors lorsqu'on dit ça, alors le Saint-Esprit l'avait averti. Alors il aurait dû dire, oui, comme le Saint-Esprit l'a averti, eh bien d'accord, j'y vais pas. Mais le Saint-Esprit lui a dit, oui, tu vas à Jérusalem, mais tu auras des souffrances. Tout comme Jésus, le Saint-Esprit lui dit, oui, tu vas remonter auprès du Père, mais il y aura des souffrances parce qu'il y aura la croix. Et vous savez, lorsque Dieu nous met dans notre cœur d'accomplir quelque chose, il met devant nous toutes les cartes. Il nous dit, voilà, il faudrait que tu accomplisses ça, mais sache que voilà, il y aura telle ou telle épreuve, il y aura telle ou telle situation, etc. Maintenant, est-ce qu'on se laissera guider par la peur ou est-ce qu'on va se laisser guider par la confiance qu'on a en Dieu? Et dire, Seigneur, oui, si tu m'appelles à faire cela, ben, je vais le faire, même si je sais, comme tu me le montres, qu'il y aura des souffrances. Et Paul, c'est ce qu'il fait. Et il ne laisse pas les gens lui dire, n'y va pas. Et ceux qui disent, n'y va pas, ils disent, non, j'irai quand même. Puisque c'est le chemin que Dieu veut que je, par lequel Dieu veut que je passe. Et puis, un autre exemple, alors qu'il était en prison, là, il y a le Seigneur qui vient lui dire, au chapitre 23, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Et ça, c'est très important. Il faut que tu rendes témoignage dans Rome. Alors, lorsqu'il sera devant le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler à César. Il dit, ouais, moi comme je suis un Romain, ben, j'en appelle à César, c'est mon droit. Et après, il est dit que le roi Agrippa dit à Festus, au chapitre 26, cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. Il aurait pu être relâché. Parce que lui n'avait rien fait de mal. Mais pourquoi il en a appelé à César? C'est parce que le Seigneur lui a dit, il faut que tu rendes témoignage à Rome. Vous voyez? Donc il ne regarde pas sa propre personne. Ce qui est important pour lui, c'est d'accomplir la volonté de son Seigneur. Même s'il sait qu'il va passer par des moments difficiles. Donc, frères et sœurs, cherchons la volonté de Dieu pour savoir ce qu'il attend de nous, en fait, finalement. Il dit qu'il a préparé pour nous de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Voilà. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, prions notre Dieu pour lui demander de nous montrer sa volonté. Prenons la ferme résolution de l'accomplir et mettons tout en œuvre pour le faire avec la force qu'il nous donnera. Ne laissons pas les obstacles, les oppositions, les mauvaises pensées, les personnes parfois qui peuvent, même si ce n'est pas fait contre, mais... c'est pas l'Esprit de Dieu qui les conduise à un moment donné pour dire de faire telle ou telle chose. Et il est très important que chacun ait vraiment se laisse conduire par la pensée de Dieu pour pouvoir discerner ce qui est dit, ce qui est entendu, on est dans la pensée de Dieu. Et donc ne pas laisser cela nous dévier du chemin qu'il a tracé pour nous. Et donc, gardons les yeux fixés sur le but à atteindre. Et je vais lire ce texte de Romains 5, les cinq premiers versets. Et on va revenir sur l'espérance dont notre frère nous a parlé ce matin. Et qui est là comme cet objectif qui est là devant nous. Et il dit, Romains chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.